Alors bonjour, je suis sur le stand de l'IFCE, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour.
Bonjour, Guillaume Blanc, je suis directeur de l'accompagnement à la filière à l'IFCE, donc qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Donc on est plutôt bien entouré aujourd'hui et on se pose la question du certificat d'engagement qui est paru il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce certificat?
Alors c'est un certificat d'engagement et de connaissance. Je pense que c'est les deux choses qui sont importantes. Il est lié à la loi dite d'Ombreval qui a été mise en place un décret a suivi au mois de juin 2022 et deux arrêtés sont parus en fin d'année 2022 pour lister les structures professionnelles susceptibles de délivrer les certificats d'engagement et de connaissance en subsidiarité avec les vétérinaires. Et de l'autre côté, une liste de diplômes qui permettent de s'exonérer de ce certificat d'engagement et de connaissance qui correspondent à des formations où les connaissances sont acquises au travers de ces formations.
Alors on va revenir après sur à quoi sert ce certificat d'engagement et de connaissance. Avant, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un peu la genèse, le projet politique qu'il y a derrière ça?
Le projet politique, il est simple, c'est d'éviter les achats d'impulsions et d'accueillir des animaux sans en avoir les connaissances de base pour pouvoir gérer l'animal au quotidien.
Par exemple ?
Accueillir un poney ou un âne dans un pré parce qu'on a un peu d'espace et ne pas savoir qu'il faut le faire parer, c'est-à-dire tailler les sabots tous les mois et demi à peu près, ou quel type d'alimentation, ou quel type d'interaction avec d'autres animaux ou avec l'homme qui sont importantes parce que l'animal a des besoins particuliers qui ne sont pas obligatoirement ceux de l'homme.
Donc finalement, on a créé une sorte de micro certificat de capacité pour des animaux domestiques.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on interagit avec des animaux et l'idée du législateur, c'est que ces animaux, on connaisse leurs besoins à la fois en termes alimentaires, à la fois en termes de soins et à la fois en termes d'interaction.
D'accord. Et alors ce certificat d'engagement, à quoi il ressemble concrètement? Et de connaissances, à quoi il ressemble concrètement?
Alors aujourd'hui, on a l'arsenal législatif qui est en place et l'objectif, c'est de mettre en place une instruction technique qui va être mise en œuvre par la DGL, donc la Direction Générale de l'Alimentation. Pour faire simple, c'est les services vétérinaires, pour dire comment est-ce qu'on va mettre en place ce certificat d'engagement et de connaissances. Aujourd'hui, il n'est pas lié à des formations. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les acteurs qui souhaitent accueillir un équidé chez eux puissent s'intégrer dans un programme de formation qui soit volontaire.
D'accord, donc ça reste du volontariat. On a un certain nombre, je crois, de diplômes qui permettent d'obtenir, on va dire, de manière automatique le certificat d'engagement et de connaissance, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est tous les diplômes, principalement les diplômes agricoles, qui sont liés à la gestion des équidés. Partant de ce principe-là, on pense que des gens qui vont faire 2 ans ou 3 ans de formation avec une spécialité autour des chevaux, à minima, ils ont les connaissances qu'on leur demande.
D'accord, donc j'ai un diplôme agricole spécialité bovin, je peux quand même éventuellement avoir des équidés chez moi.
Alors, à partir du moment où vous avez un diplôme où vous allez accueillir qui va vous permettre d'accueillir des animaux dits de rente, donc herbivores de grande taille, un équidé c'est relativement proche, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes besoins, c'est des animaux de troupeau, donc les objectifs sont à peu près les mêmes.
D'accord, et la liste, si je comprends bien, est amenée à évoluer puisque certains diplômes ne sont pas encore pris en compte?
Oui, en fait cette liste elle a été faite parce qu'il y avait la nécessité de sortir l'arrêté avant le 31 décembre puisque le décret était paru en juin et donc cette liste va évoluer en fonction déjà de l'évolution des diplômes puisque régulièrement il y a des formations qui s'ouvrent. Je vais reprendre un exemple tout bête, la formation de groom qui est vraiment la personne qui va s'occuper du cheval au quotidien, cette formation n'est pas dans la liste. Donc on sait que c'est des listes qui vont évoluer à la fois en fonction de l'évolution des formations et aussi en fonction de l'évolution des besoins.
Alors on écoutait récemment votre webinaire puisque l'IFCE était assez prolifique sur la création de webinaires et ça c'est génial. Je crois que vous insistiez un peu sur la notion de professionnel.
Aujourd'hui les professionnels sont réputés avoir les connaissances de base pour pouvoir accueillir des animaux, ce qui est quand même relativement logique. C'est-à-dire que si vous êtes maçon, vous savez vous construire un mur. À la base, après, un amateur qui va construire un mur, peut-être que ce mur sera un petit peu moins droit parce qu'il n'a pas la formation de base. Et le professionnel, généralement, quand il rentre dans une activité professionnelle, il essaye d'avoir les connaissances pour pouvoir gérer son activité dans de bonnes conditions.
Et alors justement, donc nous on s'intéresse à des porteurs de projets qui veulent par exemple créer des fermes pédagogiques ou travailler dans le monde de la relation à l'animal, qui parfois ont un cheval, deux chevaux, voire parfois ne les ont pas encore et vont les avoir ou souhaitent en avoir. Donc eux, ils sont considérés comme des amateurs pour le moment ou des non-professionnels?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas une activité professionnelle au contact des équidés de façon régulière, ne peut pas être considérée comme un professionnel. Et de la même façon, quelqu'un qui va travailler par exemple dans un établissement équestre ou qui va travailler comme prestataire chez un éleveur, s'il l'accueille des chevaux chez lui à titre personnel, si ce n'est pas son activité première, il n'est pas considéré comme professionnel.
Et donc là, le certificat d'engagement et de connaissance devient obligatoire pour lui. Quels sont les meilleurs moyens pour lui de se le procurer ?
Alors pour le certificat d'engagement et de connaissance, on peut s'adresser directement à sa société mère. Ce qu'on appelle société mère, ça va être France Gallo pour les éleveurs de galopeurs, le trot, la SHF pour les éleveurs de chevaux de sport et de loisirs, la SFET pour les races de territoire et de races de travail. Donc là, c'est la porte d'entrée principale. Si on est déjà éleveur ou si on a déjà une activité où on va faire de la formation, de la valorisation des jeunes chevaux, par exemple, là, on a notre société mère qui est la porte d'entrée principale. Par contre, pour un amateur qui veut accueillir un cheval, son premier prescripteur en termes de soins aux équidés, ça va être son vétérinaire. Donc, légitimement, déjà, l'avantage du vétérinaire, c'est qu'il connaît les infrastructures, il connaît les personnes, il connaît leur niveau de formation. Donc, le vétérinaire est l'interlocuteur principal pour avoir son certificat d'engagement et de connaissance et qui va vous encourager à compléter la formation. Vous parliez tout à l'heure des webconférences qu'on organise à l'IFCE. Ben, je pense que c'est aussi notre objectif, c'est-à-dire que nous, on est sur une action de recherche, développement, formation et diffusion. Et au travers de ce qu'on appelle Wikipédia, donc le Wikipédia du cheval, on a des fiches techniques, des webconférences sur des sujets très particuliers. Et l'objectif, c'est bien d'accompagner les acteurs à se renforcer leurs connaissances. Et que ces acteurs soient des acteurs professionnels ou des acteurs amateurs. Et c'est une bonne démarche. C'est-à-dire que on peut très bien obtenir ce certificat d'engagement et de connaissances. Ça veut dire qu'on s'engage à acquérir les connaissances minimum. Donc cette acquisition, elle peut être faite soit par ce qui est organisé par les sociétés mères au travers des webinaires qu'ils organisent pour leurs adhérents, ou également sur le site de l'IFCE, où là vous avez toutes les informations, vous posez une question par rapport à une maladie, par rapport aux soins que vous allez avoir à apporter à des chevaux ou par rapport à de l'équitation. Vous pouvez trouver un certain nombre d'informations chez nous.
On trouve beaucoup de ressources évidemment sur votre site et sur la chaîne YouTube aussi. Donc ça veut dire que l'IFCE est ouvert aussi aux personnes qui ne sont pas du tout dans le monde équestre à l'origine et qui ont peut-être un cheval, un poney ou un âne?
Ben aujourd'hui, c'est clair qu'on est dans une activité agricole un peu particulière, puisque 80% des éleveurs, quel que soit le segment, que ce soit course, trait, chevaux de sport, il y a 60% d'éleveurs qui ont une jument et à peu près 15% qui en ont deux. C'est-à-dire qu'il y a 80% des éleveurs, des acteurs, qui n'ont moins de deux juments. Donc ce n'est pas une activité professionnelle. Majoritairement, c'est des gens qui ont eu un cheval chez eux parce que leur fils, leur fille montait à cheval, ils sont partis faire des études et ils décident de faire un poulain. Donc on est vraiment dans une activité de loisir. Et ces gens-là, on a besoin de les accompagner pour qu'ils acquièrent les meilleures connaissances pour pouvoir gérer leurs animaux.
Super. Si je reviens une petite seconde sur notre vétérinaire, on a encore assez peu de recul aujourd'hui puisque les décrets sont assez récents, les arrêtés sont récents. Est-ce que les vétérinaires font ça volontiers, sont dans une bonne démarche à ce sujet-là?
Ben bien sûr, puisque le vétérinaire, c'est à la fois quelqu'un qui va apporter des soins aux animaux, mais c'est aussi l'interlocuteur de proximité pour tout ce qui va toucher au bien-être. Et quand on regarde, par exemple, a été mis en place la déclaration de vétérinaire sanitaire il y a quelques années pour tous les détenteurs de plus de 3 équidés. Et à cette déclaration de vétérinaire sanitaire est liée une visite sanitaire obligatoire tous les ans ou tous les 2 ans. Donc ça veut dire que votre vétérinaire, le ministère de l'Agriculture, va détacher un vétérinaire sanitaire qui va venir dans votre élevage pour parler bien-être, puisque ça a été la première démarche, ça a été autour du bien-être. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est d'apporter aux acteurs les outils les plus efficaces pour répondre à leurs attentes.
Après, on sait dans le monde rural qu'il est assez difficile de trouver un vétérinaire sanitaire, en tout cas dans certaines régions. Des vétérinaires classiques peuvent aussi aider pour le certificat d'engagement.
Bien sûr, tout vétérinaire est habilité à vous délivrer un certificat d'engagement de connaissance. Mais je pense que cette difficulté de trouver des professionnels de la santé, on l'a exactement dans le médical également. Les déserts médicaux existent. Donc vous avez du mal à trouver un médecin traitant, vous avez du mal à trouver un vétérinaire sanitaire. Après, il y a des régions qui sont plus denses en termes d'élevage. Vous allez Normandie, Pays de la Loire, là vous avez une grosse activité élevage de chevaux et donc des vétérinaires spécialisés. Mais tout vétérinaire rural, moi je suis fils de vétérinaire rural, donc je sais à peu près, tout vétérinaire rural aujourd'hui est habilité, a les connaissances de base pour pouvoir soigner un animal, pour pouvoir faire des soins d'urgence et vous accompagner dans votre démarche.
Super. Pour conclure, est-ce que je peux vous demander deux ou trois conseils pour un particulier justement qui veut adopter son premier âne ou son premier cheval, son premier poney ? Des erreurs à ne pas faire ?
Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir un animal seul. Donc si vous avez l'occasion, ayez deux animaux en même temps, parce que ce sont des animaux de troupeau. Et donc à ce titre-là, ils ont besoin d'interaction. L'interaction avec l'homme n'est pas suffisante. Après, il faut avoir des herbages, de préférence des herbages que vous faites tourner, parce que sinon vous allez avoir des herbages qui vont être souillés et vous avez des risques de parasitisme. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont indispensables. Si vous avez un hectare, il vaut mieux couper votre hectare en deux et faire tourner votre cheval dans les deux parties plutôt que de l'avoir sur une surface. Parce que vous allez avoir des zones de refus, des zones qui ne vont pas être pâturées. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont indispensables à connaître. Après, c'est avoir des soins en termes de vaccination, en termes de vermifugation régulière, en termes de le regarder. La première des choses, c'est regarder votre animal et voyez qu'est-ce qui va changer dans son comportement. Donc ça peut être un signe avant-coureur de soit d'une maladie, soit d'un mal-être. C'est-à-dire qu'un cheval qui va être trop actif ou très apathique, c'est quelque part il y a un problème. Mais je pense que c'est exactement la même chose qu'avec votre voisin. Si votre voisin il pleure tous les jours, vous dites il y a un problème, il n'est pas heureux. Et bien votre cheval, c'est exactement la même chose. Votre cheval, votre âne, l'objectif c'est de repérer les signes de bien-être ou les signes de mal-être qui sont des signaux faibles. Un cheval qui va dans un box qui est renard, c'est-à-dire qui va bouger la tête tout le temps, qui va tiquer à l'appui, qui va avoir les oreilles qui vont se coucher régulièrement quand vous passez devant le box, il vous alerte. Il vous dit attention, je vais pas bien. Faites quelque chose pour que j'aille mieux. Et donc c'est à vous justement de se dire, vous avez un être vivant dont vous ne connaissez pas les codes, bah allons chercher les codes chez ceux qui savent. Voilà, c'est soit votre vétérinaire, soit l'IFCE, soit toutes les acteurs qui peuvent répondre à vos questions.
Super, une petite dernière question bonus si vous voulez bien. Le monde du cheval, il évolue beaucoup en ce moment. On a des pratiques qui changent, on a des profils, je pense, de personnes qui changent. Est-ce que vous voyez des signaux faibles ou des choses qui vous préoccupent ou qui vous intéressent en ce moment ?
Ben, je pense qu'aujourd'hui, la première des questions qui se posent, c'est, on parle de bien-être. Le bien-être, c'est un peu la tarte à la crème. Je pense qu'on est sur des animaux avec lesquels on a une interaction. Et je pense qu'il faudrait mieux présenter cette interaction en termes d'interaction de travail. Donc si on raisonnait en se disant, le cheval est un partenaire de travail, partenaire de la performance, mais au même titre que des patineurs artistiques, s'ils sont en couple, c'est deux partenaires. Des cavaliers, ils sont partenaires avec leur cheval. Et l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie au travail, de diminuer les risques psychosociaux et de diminuer les risques musculosquelettiques. Voilà, si on arrive à avancer dans cette démarche-là et d'avoir un partenaire de travail avec lequel on va avoir un raisonnement au même titre qu'un employé. Et on ne lui apporte pas des euros, on lui apporte la sécurité alimentaire, la sécurité en termes de confort, la sécurité, parce que c'est un animal de fuite et c'est une proie à la base, le cheval. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir un cheval chez soi, ben, il prend le confort et en contrepartie, il nous donne un peu de son travail. Donc c'est un échange de bons procédés. Un cheval au pré, il va être beaucoup plus vigilant, c'est-à-dire qu'il va augmenter son taux de cortisol, donc l'hormone du stress va être plus présente. Donc est-ce que le bien-être, c'est d'être dehors et d'être stressé, ou est-ce que ça va être d'interagir avec un autre être vivant qu'est l'homme dans des conditions positives. Mais je pense que la filière a pris conscience de ces thématiques-là et des besoins de la société, des attentes de la société en termes de bien-être. Il y a un sujet qui n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question de quel est le monde dans lequel on veut vivre. Donc, quand on parle de développement durable, le cheval a un vrai rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les herbages sont des stockages de carbone, les haies sont des conservatoires de biodiversité sauvage. Tout cet élevage qui est un élevage en extensif quand même, parce qu'on a un suivi du cycle de vie, les chevaux ne sont pas en concentrationnaire, ils sont vraiment au pré, on respecte le cycle de vie du jeune animal puisqu'on fait le sevrage à 6 mois, on essaye de faire des sevrages progressifs ou des sevrages en groupe, un peu comme quand on envoie des enfants à l'école au CP la première année, le premier jour ils pleurent, mais après ils préfèrent aller voir leurs copains que de rentrer à la maison. Et bien le cheval, il faut qu'on arrive à trouver la même démarche pour aller vers cette sociabilisation du cheval au travers des autres individus de son espèce. L'interaction avec l'homme, ce qu'il faut faire très attention, c'est pas faire d'anthropomorphisme. C'est votre cheval, vous lui mettez une couverture parce que vous avez froid. C'est pas lui qui a froid. Après, vous allez avoir une démarche où vous dites, je vais lui mettre une couverture parce que je vais le tondre, parce que je veux passer moins de temps quand je vais monter dessus. Ben non, c'est pour votre bien-être, c'est pas pour le bien-être du cheval. Et l'équilibre thermique du cheval, il est entre 6 degrés et 25 degrés. À 6 degrés, vous avez froid. Le cheval, à 6 degrés, il n'a pas froid. Et vous êtes ravis de voir des chevreuils dans la nature. Ils n'ont pas de couverture, ils se portent très bien. Et ben, le cheval, il n'a pas plus de poils, il se porte très bien dehors. Et il suffit de regarder les chevaux qui ont des abris dans les prés. Pendant l'hiver, ils ne rentrent pas dans l'abri. Ils rentrent dans l'abri uniquement quand il fait trop chaud pour se protéger des mouches. Donc, ayons une réflexion qui n'est... On quitte la réflexion humaine pour aller vers la réflexion de l'animal. C'est-à-dire comment il réagit, quelles sont sa vision naturelle. Exonérons-nous de notre vision purement humaine.
Rentrons dans le monde du cheval plutôt que dans le nôtre. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir de discuter avec vous, de vous écouter.
Merci.
Eh ben super.
Merci de votre fidélité à la chaîne des entrepreneurs animaliers. Si les questions de certificat d'engagement et de connaissance vous intéressent, eh bien c'est peut-être parce que vous avez vous-même un projet animalier, un projet de ferme pédagogique ou de parc par exemple. Eh bien pour cela, je vous ai créé une formation qui est complètement gratuite sur les secrets d'une reconversion réussie dans l'entrepreneuriat animalier et vous retrouverez cette formation sur le site entrepreneur-animalier.fr, rubrique ressources gratuites. C'est sur ce même site que vous retrouverez toutes nos formations professionnelles, par exemple créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique, ou comment devenir facilitateur de la relation au vivant. Et n'oubliez pas, le meilleur moyen de m'encourager à continuer à faire des vidéos, eh bien c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne des entrepreneurs animaliers. À très bientôt !